Please, Mickey. I'm listening to rocking.com.
Please, just leave me be.
Now let's kill that fucking bear.
rocking.com.
You're listening to rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wajah!
8 à 12, 14 à 18.
The Punisher.
Chris the Sport Missile.
Il est 11h18 minutes, bien sûr, en direct, live, le www.rockkick.com, votre station de radio internet numéro 1. Bienvenue sur la planète Wake Up, le show qui est là du lundi au vendredi de 8h à midi, de 14h à 18h. Eh bien, au bout du fil, oui, Monsieur Reichmann qui va commenter avec nous justement tout ce qui s'est produit depuis le 21 avril. Et je crois que c'est très passionnant. C'est pratiquement un téléroman, là, Monsieur Reichmann. Comment allez-vous?
Bien, merci Monsieur Trépanier. Bonjour à vous,
bonjour
à tous.
Bonjour.
Oui, c'est un téléroman, mais qui n'a pas le sens, à mon avis, que les médias lui ont donné. C'est-à-dire que nous avons assisté à une élection présidentielle qui, certes, a été marquée par une participation très importante, 85% de participation, c'est beaucoup, c'est plus qu'on n'avait jamais connu pour une élection de ce type. Mais ce qu'il y a de plus frappant dans cette élection, ça n'est pas tellement le fait que Sarkozy et Ségolène Royal soient en tête, c'est surtout la signification des voix qui se sont portées sur eux. Car quand vous regardez les chiffres, et c'est toujours très intéressant de regarder les chiffres, il y a en France 12 millions de retraités.
Ok.
Il y a 6 millions de fonctionnaires, donc ce sont des couples, donc ça fait 12 millions de personnes censées voter dans ce sens. Et vous avez 10 millions d'immigrés dont beaucoup vivent, pas tous, mais dont beaucoup vivent d'allocations diverses. Or, les retraités, là, toutes les études le montrent, les retraités ont massivement voté pour Sarkozy, les fonctionnaires et les immigrés, dont beaucoup sont français d'ailleurs, ont assez massivement voté pour Ségolène Royal. Les uns et les autres représentent donc, comme nous l'avons dit, à peu près 24 millions de personnes au total, et les voix réunies par Sarkozy et Royal, ça fait 21 millions. Donc vous avez en réalité le sens de cette élection, c'est que ce sont les inactifs, ils sont inactifs pour ce qui concerne les retraités par nature, puisqu'ils ont terminé de travailler, mais enfin ils sont quand même inactifs, ce sont les inactifs, les fonctionnaires et les assistés, qui ont voté massivement pour les deux candidats principaux, qui recueillent 6 suffrages sur 10. C'est-à-dire que la France est désormais, et ça nous l'avions prévu, dirigée par les gens qui vivent d'une manière ou d'une autre de la redistribution. Donc les grandes victimes de ce scrutin, ce sont finalement les actifs et les plus jeunes. Et ça, c'est une situation très très grave, parce que à terme, elle signifie d'abord d'une part un appauvrissement qui va bien entendu s'aggraver, puisque par définition, quand on ne privilégie pas l'activité, eh bien on s'appauvrit. Et deuxièmement, il y a en germe des conflits internes, des conflits civils, qui vont devenir probablement de plus en plus violents, sans parler du fait que l'émigration des jeunes va se faire de plus en plus importante. C'est pourquoi j'ai titré mon éditorial de cette semaine « Un vote catastrophique ».
Monsieur Reichmann, je vous ai, si j'ai bien compris, vous avez dit que les retraités auraient voté massivement Sarkozy. C'est bien ça?
Oui.
Je vous pose la question très simple. Pourquoi?
Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est une raison de sécurité. Toutes les études l'ont prouvé. Il y a un intense besoin de sécurité qui est lié, bien entendu, à un état de grave insécurité. C'est un premier point.
Okay.
Le deuxième point, c'est une inquiétude que les retraités ont, et ils ont raison d'être inquiets.
Oui.
Vous savez que des sondages ont démontré que 83% des personnes sont inquiètes en France pour leur retraite, c'est-à-dire le chiffre vaut pour l'ensemble des Français et pas seulement pour les retraités, ce qui veut dire que tout le monde est bien conscient du fait que le système français de retraite va vers une catastrophe, puisque nous allons vers une situation d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années où il y aura pratiquement un retraité pour un cotisant, c'est-à-dire ce sera strictement impossible. Actuellement, il y a un petit peu plus de 2 cotisants pour un retraité. Donc les retraités sont bien conscients du fait que la situation est grave pour eux. Les fonctionnaires eux-mêmes, car nous avons beaucoup trop de fonctionnaires par rapport aux pays comparables.
Ah.
Nous avons, nous, actuellement 25% de fonctionnaires par rapport à la population active, alors que les pays comparables, les pays du G7, en ont autour de 12,5 ou de 13. Donc les deux grands problèmes qui sont en train de massacrer l'avenir de la France, c'est le fait que les gens sont partis trop tôt à la retraite, qu'il y a trop de fonctionnaires, que tout ceci provoque un abus de charges et d'impôts qui font que les entreprises n'arrivent plus à s'en tirer, et au lieu de voter pour des gens qui voulaient qu'on réagisse dans ce sens, les Français ont voté dans le sens, si vous voulez, du maintien de ce système. Alors, M. Sarkozy essaye de dire qu'il va modifier les choses. Sur un point, c'est vrai. Il dit, mais va-t-il le faire? C'est un autre problème. Il dit qu'il ne remplacera qu'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Mais on sait ce que valent ce genre de promesses, surtout face à une situation où les fonctionnaires sont puissants par leur nombre. Donc, on est très très loin, parce que ce qu'il faudrait faire, c'est en fait ne remplacer aucun des fonctionnaires qui partent à la retraite, ce qui nous conduirait en quelques années à avoir un nombre de fonctionnaires par rapport à la population active à peu près identique à ceux de nos concurrents.
Mais si donc, nécessairement, oui. M. Reichmann, je m'excuse de vous interrompre, mais si on, si on coupait au niveau des fonctionnaires, il y aurait des manifestations monstres, ça c'est clair.
Oui, mais vous savez, le problème est en fait assez simple, même s'il est dramatique, c'est que si on ne le fait pas, eh bien, non seulement les retraités ne toucheront plus de retraite ou une retraite réduite à pas grand-chose, mais les fonctionnaires ne seront plus payés non plus. Donc, il aurait fallu expliquer, alors je ne vous dis pas qu'il faut faire ce genre de choses-là, brutalement, ni sans explication, mais une campagne électorale est l'occasion de mettre les problèmes sur la table, et il aurait fallu, au cours de cette campagne, et bien avant d'ailleurs, expliquer aux Français quelle est réellement la situation de notre pays, leur proposer des solutions progressives, bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, et ensuite obtenir l'assentiment du pays sur ce programme. Au lieu de cela, on a passé son temps à évoquer des problèmes secondaires ou à parler de choses sans importance, et le résultat, c'est que les gens, n'étant pas sollicités d'une manière sérieuse, ont voté de manière catégorielle, c'est-à-dire c'est vraiment un vote de caractère purement catégoriel, c'est-à-dire que ça n'est pas un vote national, si vous voulez.
Okay.
C'est un vote que l'on pourrait qualifier presque de, comment dire, presque syndical, au sens large du terme. Enfin, c'est un vote corporatiste, à coup sûr.
Ok. On avait dit quoi avant le 21 avril, M. Reichmann? Vous aviez promu qui déjà? Parce qu'attention, je vais ressortir les...
Je vous avais dit, j'avais prévu, mais enfin, c'était pas une prévision de caractère magique. Hein. Je pensais que M. Bayrou risquait d'arriver second. Il n'en est pas... il en est quand même à 7 points de Mme Royal.
Oui.
Mais il est quand même arrivé 3e.
Exact.
Et donc, la victoire de Sarkozy me paraissait évidente également, en tout cas le fait qu'il soit en tête, mais je pensais qu'étant donné la mauvaise qualité de la candidate socialiste, plus de gens essaieraient de se porter sur un candidat qui manifestement a plus de capacité qu'elle, mais c'est là qu'on retrouve ce vote corporatiste qui moi-même m'a à la fois surpris, déçu et inquiété, parce que les gens qui se sont finalement portés à la place de M. Bayrou sur Mme Royal, parce que c'était pour l'essentiel cela, ce sont des gens qui finalement ont fait prévaloir leurs intérêts catégoriels sur l'intérêt général du pays, parce qu'ils avaient peur qu'avec Bayrou, qui n'est pas pour autant mon candidat, c'est un autre problème, mais enfin ils voulaient, avec une partie des socialistes les plus éclairés, essayer de redonner vie à, non pas seulement au centre, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais à ce qui pourrait ressembler à une social-démocratie moderne, comme par exemple on la connaît en Allemagne, comme on la connaît en Grande-Bretagne, etc., ce qui aurait été certainement à la fois une bonne solution pour la gauche et pour la droite, parce que face à une social-démocratie moderne, la droite aurait pu être vraiment la droite, parce que vous ne pouvez pas facilement dialoguer avec des gens qui n'ont pas d'idées ou qui ont des idées folles comme les marxistes. Et de même, les socialistes ne se seraient pas opposés systématiquement à toute réforme allant dans le bon sens. Donc la France aurait pu prendre le chemin d'une alternance moderne et surtout d'une modernisation générale de son système économique et social, surtout social d'ailleurs, parce que le système économique, lui, il est moderne, mais malheureusement, il est étouffé. Et donc, je pense que cette élection est une véritable catastrophe et que nous allons la payer très cher.
Ça, c'est sûr et certain que vous allez la payer cher. Vous avez regardé probablement la conférence avec Bayrou?
Oui, oui, je l'ai suivi en direct parce qu'il se trouve que j'ai réussi à dégager un petit créneau de temps ce jour-là, oui. Qui ne m'arrive pas très souvent. Et donc, j'ai pu la regarder en direct et je l'ai trouvée très intéressante. Elle était intéressante à tous égards. D'abord parce que les questions posées étaient assez valables. D'autre part parce que Bayrou y a répondu avec une certaine franchise et avec netteté. Mais je pense surtout que il a donné au cours de cette conférence de presse la clé de ce qu'allait être son attitude, même s'il n'a pas voulu
prétention
dire pour qui il voterait. Mais aujourd'hui, les événements qui ont suivi démontrent que finalement, ce que déteste le plus Bayrou parmi ces deux concurrents du premier tour, c'est la manière de faire de Sarkozy. Et là, il l'a dit carrément ce matin sur RTL, il était interviewé en direct sur RTL ce matin, donc à 8h, c'est-à-dire où vous dormiez encore à cette heure-là.
Probablement.
Donc, ce qui est normal, hein, je ne vous en fais pas le reproche.
Non.
Non, non. Et si vous voulez, je peux vous réveiller par téléphone.
Hein. Oh, ben toujours, ça peut se faire.
D'accord. Et donc, il a dit que la façon dont M. Sarkozy voulait interdire le débat que Mme Royal voulait avoir avec M. Bayrou était tout à fait significatif de ses méthodes. Et je dois dire que sur ce point, M. Bayrou a raison, parce que Sarkozy est un véritable, un manipulateur de médias, tout le monde le sait.
Mais oui.
Ceux qui sont un petit peu introduits dans les cercles du pouvoir et des médias savent parfaitement ce qu'il en est. Il a mis dans sa poche beaucoup de médias et surtout beaucoup de patrons de médias. Et du coup, il arrive à obtenir beaucoup de satisfaction de gens qui devraient pourtant faire leur métier de manière un peu plus équilibrée, disons.
Bayrou, Bayrou donnait l'impression d'être très sûr de lui, mais par contre, un petit peu trop sûr de lui, à mon goût. J'ai remarqué qu'il rabrouait facilement les journalistes par moment.
Parlez de qui, de Bayrou?
Oui, de Bayrou, exactement.
En réalité, il est en colère contre eux. Je ne pense pas qu'il les rabroue au sens... Je vous donne mon sentiment. Hein, mais j'ai le sentiment qu'il est en colère contre le système médiatique. D'ailleurs, il l'a dit depuis le début. Ça lui a bien réussi, d'ailleurs. Vous savez, parce que les Français sont très en colère aussi contre le système médiatique. Ils n'ont plus confiance dans l'objectivité des médias. Et donc, Bayrou n'accepte plus de se laisser faire. Et par conséquent, il envoie promener un certain nombre de journalistes qui lui posent des questions, non pas parce qu'elles lui déplaisent, il y répond volontiers, mais tout simplement parce qu'elles sont orientées. Et donc, si vous ajoutez à cela le fait que ça lui a bien réussi, il aurait tort de se gêner de continuer.
Ça, c'est clair, parce que, par exemple, il y en avait un de France 1, 2 ou 3, je ne sais plus trop... le type de commentaire, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir le cul assis entre deux chaises
et, ça n'est pas très intelligent comme question.
Non, hein.
Et donc, d'autant plus que ça n'a strictement aucun sens. Il y a une journaliste de la télévision, la correspondante à Paris de la télévision finlandaise, a posé une question beaucoup plus intelligente. Elle a demandé pourquoi se fait-il qu'en France... l'idée même qu'il puisse y avoir trois formations politiques dominantes paraît insensée, alors que partout la plupart des démocraties du Nord en particulier, c'est le cas général, notamment en Finlande. Et donc, c'est une question qui vaut une bonne réponse. Mais, vous savez, les médias sont... Ce qui est terrible en France, c'est que les médias se sont institués en juges, alors qu'ils n'ont aucune qualité pour le faire, et en particulier pas... l'assise, l'assise démocratique, ni l'autorité morale qui devrait accompagner ce genre d'action. Donc, comme ils jugent, les candidats le plus souvent, ou les hommes politiques, ont une tendance à avoir peur et à se plier, et Bayrou a décidé de plus avoir peur. Et ça lui réussit assez bien.
Plusieurs personnes me disent via le live @rocket.com, Monsieur Eichmann, oui. Qu'ils ne sont, enfin, qu'ils sont pas vraiment d'accord avec vous concernant, par exemple, Sarko aurait par exemple eu le sentiment de Canal+, une chaîne qui est ouvertement de gauche, pour ne nommer que celle-là. Dans oui. Ce serait des exemples parmi tant d'autres qu'on m'envoie là, via courriel.
Oui, mais ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que les interactions sont très complexes. Ce n'est pas parce que Canal+ a des journalistes de gauche qu'elle est dirigée par des financiers de gauche. Et donc, je pense que il y a beaucoup de relations qui se sont faites entre les uns et les autres. Et l'attitude de Canal+ a été tout à fait étrange, parce que c'est Canal+ qui a proposé d'organiser ce débat. Ce n'est pas
oui.
les deux concurrents, enfin, Madame Royal et Monsieur Bayrou n'ont pas demandé à Canal+ de le faire. Canal+ s'est proposé. Et ensuite, ils ont prétendu plutôt que c'était le CSA qui les avait sommés de ne pas le faire. Alors, c'est tout à fait faux. Le CSA n'a qu'une seule décision à faire respecter, c'est celle de l'équité, c'est-à-dire que il fallait que Canal+ propose à M. Sarkozy un temps d'antenne équivalent. Alors il l'a refusé. Alors certains disent du moment qu'il le refuse, c'est impossible. Mais moi je ne le pense pas. Je pense que si M. Sarkozy l'a refusé, c'est son droit. On n'est pas obligé de faire une émission. Mais la seule obligation de Canal+, c'était de le proposer. Et donc Canal+ s'est plié à la décision de Sarkozy de ne pas accepter cette émission, et je considère que Canal+ n'a pas agi d'une manière démocratique. Et en plus, ils ont raconté des cracks parce que ils ont prétendu que c'était le CSA qui les avait obligés à le faire.
Alors,
après ça, Monsieur Belmer, qui est le Belmer, ce n'est pas le masculin de beau-père, le féminin de beau-père, hein, c'est autre chose. Monsieur Belmer a déclaré. Nous sommes une chaîne indépendante. Alors moi, je vous demande simplement une chose, Monsieur Trépanier.
Oui.
À part Rocky, qui a un certain nombre d'autres stations de radio, est-ce que vous pouvez écouter sans rire, sans vous effondrer, être plié en deux, un directeur de chaîne de radio de télévision vous dire qu'il est indépendant? Moi, je n'en connais pas beaucoup, en France.
Elle est très bonne. Elle est très, très bonne, Monsieur Trépanier. Oh, et surtout pas d'amis en politique, hein, proche de, non?
Non,
pas du tout, parce que on sait tous qu'il y a, est-ce que je peux dire le mot corruption?
Oui, vous pouvez le dire.
Ah, super, alors...
Oui, vous pouvez le dire, parce que...
Je pensais que ça allait être déplacé.
Il y a plusieurs types de corruption. Alors, ce qu'on appelle d'habitude la corruption, c'est quelque chose d'assez vulgaire qui consiste à donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire.
Voilà.
Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, la corruption. Ça commence par le fait qu'on attend un avantage dans l'avenir, ou bien simplement que le maintien de sa situation dépend de la docilité qu'on aura démontrée. Enfin bref, la corruption, c'est le fait de ne pas se conduire d'une manière indépendante quand on est obligé d'être indépendant par son statut.
Alors ici...
Et là, la corruption est partout, et
oui.
Le système médiatique français est marqué par la corruption. C'est, la corruption est partout, c'est absolument... Je vais même vous donner un exemple qui n'est pas de corruption, mais qui est de gêne. La personne qui interviewait M. Bayrou ce matin, c'est un journaliste qui est sur RTL, qui s'appelle Jean-Michel Apathy. Et donc, il a écouté et interrogé M. Bayrou sur cette affaire du débat et sur l'attitude de Canal+. Mais il était très gêné parce qu'il travaille aussi sur Canal+. Il participe à pas mal d'émissions de Canal+. Alors vous savez, tout ça est quand même très difficile parce que quand vous avez des gens qui sont multicartes, qui voyagent sous plusieurs pavillons, il est difficile de leur demander d'être très indépendants. Et c'est de cela que souffre essentiellement le système médiatique français. Vous avez une trentaine, une quarantaine ou une centaine au grand maximum de personnes qui tournent sur les plateaux de radio et de télévision. Et à part ça, il n'existe rien. C'est-à-dire que vous avez 62 millions de Français, et puis une centaine de personnes qui sont censées les exprimer. Bon, naturellement, ils ne les expriment pas, puisqu'ils vivent à part dans une espèce de cité interdite située dans les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, et pour ce qui concerne les arrondissements de gouvernement dans le 8e. Et donc, à part ça, plus rien ne se passe. Le pays est absent. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des phénomènes de corruption. Elle est endogamique, donc on ne peut pas éviter qu'il y ait une corruption.
Ouais.
Même si cette corruption n'est parfois que la corruption des esprits, mais c'est déjà beaucoup.
On nous donne déjà plusieurs donnent leur diagnostic, là, oui. sur, oui. Sur le débat là, que je trouve complètement, mais un débat que je perçois mais complètement inutile, Bayrou contre Segault. Oui. Je trouve, mais c'est quoi là, c'est une blague, c'est non?
Non, ça n'est pas. Non, mais je ne partage pas votre jugement, même si
allez-y.
Je comprends.
Allez-y.
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que il n'y a pas eu de débat avant. Si vous voulez, vous savez, le débat,
oui.
c'est comme une maladie. Je veux dire que
une maladie.
Une maladie.
Ok.
Non, mais je m'explique quand même.
Oui.
Ça n'est pas une maladie que de débattre. Mais
certainement,
dire,
docteur.
Quand vous ne soignez que les symptômes d'une maladie, au bout d'un moment, les causes de la maladie continuent de se faire sentir et vous avez de nouveau des symptômes qui s'aggravent. Alors, quand le débat a obéi au même principe, quand il n'y a pas de débat, il ressort d'une manière ou d'une autre. On a, comme on dit, un débat rentré. C'est comme, écoutez, mettez-vous à la place de vous, par exemple. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous avez envie d'engueuler quelqu'un. Bon, vous ne le faites pas pour des raisons diverses.
Oui.
Et puis tout d'un coup, vous tombez sur lui et vous l'engueulez alors qu'il ne s'y attend pas du tout. Bon, c'est ressorti, voilà, votre colère est ressortie. Ben, le débat, c'est la même chose. Les Français attendaient un débat. Il n'a pas pu avoir lieu au cours de la campagne du premier tour, ni entre Royal et Bayrou, ni entre Sarkozy et les autres. Il n'y a pas eu de débat. Et donc, du coup, ce qu'attendent les Français pour essayer de se faire une opinion, c'est justement un débat. Donc, le mieux aurait été, bien sûr, que ce débat ait lieu avant le premier tour, avec les principaux candidats. Mais là encore, on nous a expliqué que ça n'était pas possible pour des raisons d'équilibre. C'est totalement stupide et faux, puisque si, par exemple, les chaînes de télévision françaises avaient décidé de faire un débat à quatre, bon, par exemple, Sarkozy, le Royal, Bayrou, Le Pen, puisque ce sont les quatre candidats qui sont arrivés en tête et qui étaient en tête dans les sondages également. Rien n'empêchait ensuite les mêmes chaînes de donner le même temps d'antenne à quatre candidats suivants et à quatre autres. Donc il y aurait eu trois débats. C'était parfaitement possible. Mais on nous a expliqué que non, ça n'était pas possible. En réalité, c'est parce que Sarkozy ne voulait pas de débat. Et donc les autres y étaient prêts. Donc Sarkozy a voulu absolument faire sa campagne sans débat, parce qu'il préfère pouvoir placer son baratin oui. sans être contredit. Et là, il peut vraiment compter sur les journalistes. Alors, je peux vous dire qu'un journaliste qui place un mot face à Sarkozy, il est pratiquement certain de se faire assassiner au moins du regard.
comme je vous le dis, il y a des auditeurs qui nous envoient leurs prédictions, oui, enfin leurs oui. diagnostics, les hypothèses pleuvent à n'en plus finir. Oui. Premier scénario lors de ce débat, Bayrou fait semblant de ne pas rouler Sarko. Acte 1. Bayrou oui. Ferait ceci, va tuer la Sego sur les sujets économiques. Acte 2. Sarko va la tuer sur la sécurité et l'ordre. Acte 3. Eh bien, Bayrou appellera à voter à Sarko. Qu'est-ce que vous en pensez?
Appellera à voter pour Sarko?
Oui.
Ça me paraît totalement exclu.
C'est vrai, hein?
Ça, il ne le fera pas.
Non, hein?
Il l'a pratiquement dit, déjà.
Mais...
Il l'a dit tant dans sa conférence de presse que ce matin sur RTL. Non, il a attaqué Sarkozy avec une telle...
violence.
...détermination et une telle sévérité qu'il est exclu qu'il vote pour Sarkozy, parce qu'il considère, il le dit, que c'est un danger pour la démocratie. Alors je lui laisse la responsabilité de son jugement, mais
oui.
en tout cas c'est ce qu'il dit.
Et
concernant Ségolène Royal, il l'a dit que le danger qu'elle présente était un danger plus chronique en raison du caractère irréaliste de son programme économique. Donc le scénario qui me paraît le plus probable, c'est qu'il va essayer, au cours de ce débat, ils vont essayer de démontrer qu'ils sont d'accord sur un certain nombre de modifications, de réformes, de structures de la démocratie française ou de l'absence de démocratie française. Puis Bayrou fera sentir ses différences sur le plan économique et Ségolène Royal dira qu'elle est ouverte à d'autres propositions, etc. Et je ne pense pas que Bayrou aille jusqu'à dire qu'il votera pour Ségolène Royal, mais il le laissera transparaître, il laissera en tout cas transparaître une certaine faveur pour cette solution
oui.
qui d'ailleurs se retrouve dans le titre du Monde de cet après-midi. C'est Royal et Bayrou font bloc contre Sarkozy. Donc, et ça, voyez-vous,
parce que oui,
oui, je dis ça s'est fait, je dirais presque, non pas contre la volonté, parce que ce serait beaucoup dire, mais en tout cas ça s'est fait d'une manière plus nette que les intéressés ne pensaient le faire. Ce sont les circonstances qui ont conduit à ce type de prise de position. C'est-à-dire que face à un Sarkozy qui est largement en tête actuellement. Tout, même les sondages de deuxième tour le donnent vainqueur, enfin tous le donnent vainqueur, avec une différence qui peu importante selon les instituts de sondage, c'est 53-47, 52-48. Il y en a un en début de semaine qui donnait 51-49. Enfin, tout le monde donne Sarkozy vainqueur, ce qui n'est pas pour autant assuré. Ça reste quand même relativement ouvert, mais 80% des électeurs considèrent que Sarkozy sera élu. Mais je pense que c'est l'attitude qu'a choisi Sarkozy, qui n'est pas une attitude d'ouverture en ce qui concerne le débat et le dialogue, et une façon également de confisquer la conduite de la campagne, qui a conduit Bayrou d'une part à s'y réintroduire. C'est quand même extraordinaire de se dire que nous sommes presque une semaine après le premier tour et que la vedette de cette semaine a été Bayrou, qui est éliminé. c'est quand même extraordinaire.
Mais Bayrou, on se le cachera pas, M. Reichmann, c'est un perdant, c'est un loser, quoi.
En tout cas, il a perdu, au moins. Mais attendez, il n'a pas perdu définitivement. Tout dépend. L'avenir reste ouvert.
Ah, ok.
Mais ce n'est pas un loser, non. Ça, je
non.
Suis pas d'accord avec
ah,
vous.
Pourtant, moi, pourtant, le discours qu'il avait justement lors de cette conférence donnait vraiment une impression de que ce mec était un frustré, là.
Non, je pense qu'il il est certainement pas frustré, mais je pense qu'il est en colère contre le système. À beaucoup de points de vue, il a raison, ce qui ne veut pas dire... Moi, j'ai toujours dit qu'il n'avait pas de programme.
Mais comment il peut être en colère, M. Reichmann, comment il peut être en colère contre le système quand pourtant c'est Sarko qui a fait un coup de fil et a débloqué les 500 signatures pour lui?
Ah non, pas pour Bayrou. Ah non, Bayrou, il était sûr de les avoir, puisqu'il a... Non, les signatures ont été débloquées pour Jean-Marie Le Pen, mais pas pour Bayrou. Bayrou les avait de toute façon, parce qu'il a beaucoup d'élus locaux.
Okay.
Donc, il n'avait aucun problème de signature.
Okay.
Non, ça n'est pas ça. Non, je pense que c'est l'attitude, ce qui motive Bayrou, qu'il faut bien dire, est un homme du système. Lui aussi, ça fait 30 ans, comme Sarkozy, comme les autres, qu'il est dans le système. Mais ce qui est intéressant pour nous, qui sommes des hommes de liberté, c'est qu'il y ait à l'intérieur du système des gens qui ne sont plus d'accord, parce qu'ils sont à leur tour victimes d'une certaine censure ou bien d'une attitude vraiment trop dominatrice de Sarkozy,
qui a trop de
relations dans les médias et trop d'influence. Et donc c'est bien pour nous, ça, parce que ça veut dire que ce système qui nous fait beaucoup de tort commence de l'intérieur même à imploser.
On nous dit Bayrou s'est servi du système aussi, là. Faudra pas s'en cacher.
Ah, bien sûr, mais ça, j'en suis tout à fait. Non seulement j'en suis d'accord, mais c'est un fait établi, puisqu'il est député depuis longtemps, il est président d'un parti depuis pas mal d'années, il est dans la politique depuis 30 ans, comme la plupart de ceux qui sont là. On nous dit qu'il y a un changement de génération. Bon, c'est vrai que ce sont des quinquagénaires qui se présentent actuellement, à l'exception de Jean-Marie Le Pen, mais enfin lui non plus n'est pas au deuxième tour, mais le deuxième tour va voir s'affronter deux quinquagénaires. Donc il y a un changement de génération, mais c'est des quinquagénaires qui sont des petits vieux, parce qu'ils sont dans le système depuis 20 ou 30 ans, vous comprenez?
Oui.
Alors, c'est quand même pas des perdreaux de l'année.
Non. concernant Jean-Marie Le Pen, 10,55 ou 0,5, c'est quoi?
Oui, c'est ça, oui.
C'est ça. Concernant Jean-Marie Le Pen, devrait-il laisser sa place?
Bah, écoutez... Je pense que je crois qu'il n'a pas bien appréhendé cette campagne. J'ai l'impression qu'il s'est cru, il avait de bonnes raisons de le penser d'ailleurs, puisque il avait réuni sur son nom au cours des derniers scrutins des pourcentages importants, mais il a cru que les gens qui avaient voté pour lui étaient acquis, et il a négligé deux points dans sa campagne. Le premier, c'est que une partie... Enfin, il faut savoir que les gens qui votent Le Pen, à part un noyau dur qui lui reste fidèle, et qui lui est resté fidèle, parce qu'il a quand même réuni 3 800 000 voix, c'est quand même loin d'être négligeable, mais à part ce noyau, qui est plus qu'un noyau d'ailleurs, qui est un socle, il y a beaucoup de gens qui sont des contestataires. Or, l'attitude de contestataire choisie par Bayrou, d'une part, et d'autre part, la campagne très vigoureuse en parole, au moins, de Sarkozy sur les problèmes nationaux, sur l'immigration, sur l'insécurité, etc., a privé Le Pen d'un million ou d'un million et demi d'électeurs, selon les calculs que l'on fait, et ce sont des gens qui sont un peu flottants et qui ont également, et c'est là que Le Pen a commis une erreur, à mon avis, c'est que, mais il n'avait peut-être pas beaucoup de solutions, c'est qu'il a négligé l'effet du... du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Parce que s'il a fait une belle performance au premier tour, puisqu'il a été qualifié, au second, finalement, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Chirac avec 82% des voix. Et les gens...
82 ?
Ah oui, il y a, en 2002, 82% des voix.
Wow, ok.
Alors, donc les gens se sont dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de recommencer à voter, enfin je parle pas de ceux qui étaient sur son socle et qui le sont restés,
non.
Mais les autres se sont dit, qu'est-ce que nous avons à gagner à voter Jean-Marie Le Pen, même si c'est ce que nous souhaitons faire, si ça aboutit au résultat qu'il sera au deuxième tour et que son concurrent sera élu avec 70 ou 80% des voix. Donc il y a eu cet effet de crédibilité qui a joué contre lui. Le fait aussi, peut-être, que son programme n'a pas été suffisamment présenté. Et puis, il y a eu beaucoup également de flottements dans ce programme. Il y a eu certaines tentatives de vouloir se banaliser ou de se républicaniser. Enfin, bon, ils sont allés à Valmy et célébrer la République, alors que, auparavant, la République était aussi cette République des massacreurs de Vendée qu'ils stigmatisaient. Enfin, bon, tout ça a été un peu curieux. Et pour tout dire, le fond de l'affaire, je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de campagne, et il n'a pas fait une très bonne campagne.
Non, hein.
Donc tout ceci ajouté fait qu'il se retrouve avec un score qui est décevant pour lui, et qui est également décevant pour pas mal de gens qui voulaient une réaction, parce que en réalité les voix qui sont allées à Sarkozy sont des voix qui vont, à mon avis, revenir assez vite ou à Le Pen ou à des formations qui naîtraient dans cette mouvance. Parce que les déceptions sont inscrites dans l'avenir immédiat. Il faut quand même savoir que Sarkozy ne fera rien. Je ne le dis pas par esprit partisan, mais avec le système tel qu'il est, pour faire quelque chose, il faudrait bouleverser la donne. Or, il ne bouleversera rien puisqu'il est un fruit du système, un enfant du système, dirais-je, et que, au fond, il n'y a qu'à regarder ce qu'il propose. Ce sont des réformes à la marge, ce sont des choses totalement inefficaces, c'est presque un cautère sur une jambe de bois, ça n'a absolument pas d'effet, qu'il s'agisse en matière d'immigration ou en matière d'économie. Si vous regardez ses propositions, et je les fais très attentivement, je peux vous dire que rien de ce qu'il propose ne résoudra le problème majeur posé par le fait qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires en France, qu'il y a une immigration qui est beaucoup trop importante par rapport à ce que la France peut supporter, et qu'il y a en plus une insécurité qui grandit à mesure même que l'ensemble des problèmes économiques et sociaux se dégradent. Donc il va y avoir des déceptions, et je suis intimement convaincu que dans les mois qui viennent, bon là, dans les prochaines semaines, on va être entièrement occupé, sauf événement imprévu, par le deuxième tour, puis par les élections législatives qui se déroulent le mois suivant. Mais ensuite, dès les élections passées, dès que les premières mesures du nouveau gouvernement seront annoncées, vous allez voir immédiatement les difficultés ressurgir, parce qu'elles n'ont jamais disparu. Et à ce moment-là, ceux qui s'étaient précipités vers Sarkozy comme vers un sauveur vont très certainement chercher à nouveau à se diriger ailleurs pour protester.
Ségolène Royal, au pouvoir, est-ce que c'est le bordel?
Bah écoutez, c'est en tout cas la prévision.
Je vous mets la patate chaude, là. Je vous mets une patate chaude dans les mains, là.
Ah oui, mais c'est. Vous savez, là, j'ai mis des gants, donc il n'y a pas de problème.
c'est bien.
Comme je vous connais, je prends mes précautions.
Hein. Oui, faites attention.
Bon, en réalité, bon, c'est bon, si on juge d'après ses capacités à aborder vraiment les problèmes sérieusement,
vous êtes poli.
Que ça va être le bordel, comme vous le dites.
Oui.
Mais d'un autre côté, il y a autour d'elle quand même un certain nombre d'hommes qui ont de l'expérience. Je pense en particulier à un de ceux que l'on voit comme Premier ministre, c'est-à-dire Jean-Louis Bianco, qui a été, bon, ce n'est pas un de mes amis, hein, c'est un socialiste, mais il a quand même été secrétaire général de l'Élysée et ministre. Bon, il connaît quand même les problèmes, et je pense qu'il fera preuve, je dirais, à peu près d'autant de raisons que pourront en faire les ministres désignés par Sarkozy, car ils sortent tous du même moule. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura plus de bordel avec Ségolène Royal qu'avec Sarkozy, même si à terme, il est vrai que les mesures qu'elle préconise sont d'abord insupportables pour l'économie, mais donc il est évident que ça ne se passera pas bien. Mais vous savez, le vrai problème en France, c'est que de quelque côté que vous vous tourniez, sauf sur les mouvements protestataires, vous allez avoir le même personnel dirigeant. Ils sortent de l'ENA, comme dit l'autre, ils savent tout, ils ont tout appris sauf l'essentiel. Et donc, non, le mot exact c'est même sauf le reste. Ils savent tout sauf le reste. Et donc, voilà, moi je pense que ça se passera mal dans un cas comme dans l'autre. Et ça ne peut que se passer mal, puisqu'aucun des problèmes n'a été vraiment présenté aux électeurs avec une demande pressante de se prononcer sur le fond. On ne leur a pas demandé cela, alors ils ont voté dans le sens de ce qu'ils croient être leurs intérêts, et le résultat eh bien, va être très très mauvais.
Mais il est clair que les relations, par exemple, entre la France et les États-Unis, advenant le cas que, ben, en tout cas moi je le vois déjà comme gagnant, mais que ce soit Sarko, vont être peut-être meilleures.
Sarkozy a de meilleures relations avec les États-Unis. Il est dans une position beaucoup plus ouverte par rapport aux États-Unis. Et
oui.
Je pense en effet que, de ce point de vue-là, la France se rapprochera des États-Unis, ou en tout cas cessera de l'agresser d'une manière systématique comme ça a été le cas sous Chirac. De ce point de vue-là, ce serait une bonne chose. Mais, vous savez, les vrais problèmes pour une nation qui n'est pas en charge du monde, comme c'est le cas des États-Unis, ce sont ces problèmes intérieurs. Parce que nous, Français, nous ne pouvons pas intervenir d'une manière quelconque dans les affaires du monde, autrement qu'en faisant des discours. Donc, il est évident que les discours peuvent être intelligents ou stupides, mais le vrai problème qu'a la France, comme toute puissance, qu'on peut dire moyenne, même si on est encore la cinquième puissance économique du monde, ce sont des problèmes intérieurs qu'il faut régler. Et là, j'ai les plus grandes inquiétudes, ce sont des certitudes plus que des inquiétudes, nous allons vers des difficultés considérables qui tiennent au fait qu'on ne résout absolument rien des problèmes qui se posent au pays. Comme je vous l'ai dit en commençant cette émission,
oui.
Il est évident que quand vous avez une majorité d'inactifs qui va diriger la France, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je veux dire, est-ce que vous imaginez ce que serait, je ne sais pas, une famille par exemple, où les seuls qui dirigeraient seraient les parents retraités, les enfants qui naturellement ne travaillent pas, et où il y aurait un des enfants qui travaille, un seul, et c'est lui qui ferait vivre tout le monde,
okay.
Et qui se ferait engueuler en permanence parce qu'il ne travaille pas assez, il ne ramène pas assez de fric. La France c'est ça maintenant, vous comprenez?
Oui.
Et ça c'est une situation qui ne peut pas durer. Il y a un moment où le gars qui est exploité, soit il se fout en colère et il se met à cogner sur tout le monde, ou alors il fout le camp.
Mais rumeur, M. Reichmann, on entend beaucoup jaser qu'il y a des émeutes qui se préparent là, si Sarko vient au pouvoir.
Alors certains ont dit, mais je ne sais pas s'ils ont raison, que dans la nuit même qui suivrait son élection, les quartiers seraient, ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire en fait les zones où habite une majorité d'immigrés, ou de gens issus de l'immigration, seraient en révolte. Bon, vous savez, les choses ne se passent jamais exactement de la même manière. Ce qui est sûr, on ne peut pas dire que ce sera le soir même. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, les provocations ne manqueront pas, et que, compte tenu du fait que, pour y résister, Sarkozy sera à la tête d'une armée d'inactifs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vous savez, c'est quand même quelque chose de dramatique. Quand vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont, et là, ça n'est pas une opinion de ma part, c'est une constatation.
C'est sûr, M. Reichmann, c'est sûr que c'est une constatation, parce que là, il y a plusieurs personnes qui nous disent « Merde, pourquoi là, Rocky, là, parle comme ça, là? Est-ce qu'ils sont rendus nationalistes, socialistes, là, à vous entendre? »
Mais qui donc sur Rocky?
Oui, il y a des auditeurs.
Ce que je dis sur Rocky?
Oui, exactement,
il y a des autres. Ça n'a strictement rien à voir avec une opinion, ce sont des faits. Moi, je m'efforce de mettre en évidence des faits qui sont tout simplement des chiffres qui sont bien connus.
Je fais pas ça pour vous coincer, là. Moi je rapporte ce que les auditeurs viennent dire.
Vous faites bien de dire ce que sont ce que peuvent être les réactions des gens.
Exactement.
Ce que je vous dis, c'est que il ne faut pas, quand on parle en public, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Voilà.
Et bon, je pourrais aussi bien, si j'étais irresponsable, vous dire « Bravo, Sarkozy a bien compris ». C'est ce que disent la plupart des gens à droite actuellement. Eux, il a parfaitement compris. Enfin, la droite est la droite. Enfin, ils vont prendre de bonnes décisions, etc. Ces gens se sont totalement naïfs ou inconscients. Ils ne se rendent pas compte de la réalité de la coalition de voix que représente Sarkozy. C'est une coalition, je le dis et je le maintiens, de personnes à la retraite. Et donc, je n'ai rien contre les retraités, bien entendu. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent d'avoir une retraite heureuse et paisible. Mais le problème n'est pas là.
Où avez-vous pris vos chiffres, M. Reichmann?
Ah bah écoutez, ça c'est extrêmement simple. Vous pouvez les trouver n'importe où. Vous faites, d'abord, ce sont les chiffres officiels des statistiques françaises que nous avons tous, mais vous pouvez également faire sur n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez le nombre de retraités en France, vous trouverez le nombre de fonctionnaires, et vous trouverez, alors plus difficilement le nombre d'immigrés, mais enfin ça commence à sortir quand même. Et donc tout ça, ce sont des chiffres que les gens ne veulent pas voir, et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, parce que moi j'ai eu, en plus des chiffres que je connais très bien, parce que je travaille là-dessus en permanence, mais en outre j'ai eu des réactions avec des électeurs dimanche soir, des gens, beaucoup de gens me disaient « je suis bien content ». Et je leur disais « mais vous êtes bien content parce que Sarkozy est en tête et qu'il a de bonnes chances de gagner, mais est-ce que vous vous rendez compte que votre contentement risque d'être de très courte durée parce que il n'y a pas eu un vote qui aurait associé toutes les catégories de la population française, des catégories de la population française bien équilibrées autour d'un projet visant à équilibrer l'ensemble du système français dans un sens qui serait à la fois favorable aux actifs et non pas défavorable aux retraités. Okay. Au lieu de ça, on a un vote pratiquement univoque, c'est-à-dire d'un seul sens, émanant d'une certaine catégorie de la population. Et là, c'est extrêmement dangereux. On va se retrouver, je vous dis, dans une situation inévitablement très difficile. Et les soutiens de Sarkozy, eh bien, ce seront des gens qui sont sortis de la vie active. Et donc, c'est très difficile de résister à des situations difficiles dans ces conditions.
Monsieur Reichmann, on se reparle la semaine prochaine, vendredi prochain, si possible.
À la même heure, si vous voulez bien.
Tout à fait, et on pourra commenter le débat que nous allons...
Le débat qui aura lieu en principe demain.
Oui, et j'ai hâte de voir quand même sur... c'est BMF, hein, n'est-ce pas, TV?
BFM. BFM TV.
BFM TV.
Je ne sais pas s'il sera également retransmis à la radio, parce qu'il y a une radio qui s'appelle BFM, c'est la même station d'ailleurs.
Oui.
C'est un groupe indépendant qui comprend notamment RMC.
Ah, ok, d'accord,
oui.
D'accord.
Et donc... c'est même probablement parce qu'ils sont indépendants, qu'ils sont, ce qui prouve bien que les autres ne le sont pas, qu'ils ont accepté d'organiser ce débat.
Ah, ça va bien. Alors, voilà. Écoutez, on se reparle la semaine prochaine, sans faute, M. Reichmann. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir.
Merci, à vous.
Au revoir. Bon week-end. Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. Ben, pour nous, ce sera tout. Merci d'avoir été là. Je remercie Patrick de CEPAT qui est avec nous en studio. Je remercie aussi Christian Dallaire. Eh ben, c'est simple. On se revoit la semaine prochaine. Wake Up sera disponible dès 16h-22h. C'est-à-dire quand? Oui. Ah, lundi prochain. Alors, merci. Hard Sport suit dès 13h, 19h. Bye tout le monde. Excellent week-end. Écoutez Christian Dallaire à live@hockey.com. Envoyez-y vos courriels pour le sport. On vous parle 100% sportif pendant une heure de temps. Merci tout le monde d'avoir été là. On bat des culs. On grandit de jour en jour et nos statistiques augmentent grâce à vous parce que vous parlez de hockey.com. Hockey.com, votre station de radio favorite et numéro 1. Bienvenue sur la planète.
Un autre moment historique du 400e anniversaire de Québec. En 1534, Jacques Cartier débarqua pour la première fois à Québec. Et se fit accueillir par les colons dans un secteur nommé
Vanille!
You know that you rock and you fucking kick!
Rockkick.com!
Hi, this is Ozzy Osbourne.
Hello, I'm Naomi from Black Sabbath.
I'm Joe Perry.
Steven Tyler from Aerosmith.
Hey, this is Red Rocker, Sammy Hagar.
Rockkick.com!